Avec autour de la table, le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel, Louis Osalter de Marianne, Maxime Yedo, journaliste, essayiste et la députée Modem des Hauts-de-Seine, Isabelle Florenne. Pas de déclaration orale, en tout cas audio, ni télé. Un message sur Twitter, en revanche, Nicolas Sarkozy, combatif, déterminé. Hier soir, le droit a été bafoué, c'est une injustice, on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Voilà ce que déclare, entre autres, Nicolas Sarkozy. Tout au long de la journée d'hier, il a reçu le soutien de sa famille politique après sa condamnation. Écoutez, dans l'ordre, Xavier Bertrand, Jean Castex, son ancien collaborateur, et le député LR Julien Aubert.
C'est un ancien président de la République, et fait honneur à la France, et je me mets avant tout à sa place ce soir. Il est en permanence, accompagné de personnes chargées de sa sécurité. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin, en plus, de lui imposer une telle mesure blessante ? Il a fait appel, je le comprends pleinement, pour défendre son honneur.
Le Premier ministre de la République ne peut pas, ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais, dans ces circonstances, manifester mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de 2 ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays.
Je suis frappé, si vous voulez, par la violence symbolique consistant à condamner à une peine de prison ferme un ancien président de la République sur la base d'une infraction au code électoral sans enrichissement personnel. Il me semble que la peine est disproportionnée et en soi donc susceptible d'interprétation politique. Et puis deuxièmement, ça montre que les juges ont une influence, volontaire ou involontaire, sur le jeu politique. Hein, cela rappelle aussi la manière dont la dernière campagne présidentielle de 2017 s'est passée.
Voilà, Xavier Bertrand au 20h de France 2, Jean Castex au 20h de TF1 et Julien Aubert au micro d'Alexis de La Fontaine. Sarko soutenu, même Jean Castex, hein, il prend des pincettes, mais il le soutient. Et là, est-ce qu'il a bien fait, Jean Castex, de soutenir Nicolas Sarkozy ?
Oh bah quand on est sincère, on peut pas reprocher à quelqu'un de témoigner son amitié. Ça aurait été plus simple pour lui de se laver les mains, honnêtement. En tant que, c'est pas pour le défendre. Il aurait pu
s'arrêter à la courage, c'est ce que vous
à la fin de sa
vous
première
êtes en train
phrase.
De dire.
Moi, je trouve que c'était plutôt touchant qu'il fasse ça. Ensuite, voilà, ça, en tant que Premier ministre, c'est jamais évident de
c'est pour
faire,
ça.
Faire ce type de déclaration. Mais je pense qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, quand on regarde toutes les réactions politiques de toute la classe politique, mis à part quelques écolos, en fait, il y a eu assez peu de gens qui tiraient sur Nicolas Sarkozy pour une simple raison, c'est que toute la classe politique sait que maintenant il y a une immixtion de plus en plus importante quand même de la justice dans la vie politique et que bah voilà il faut être très regardant et que un jour ou un autre tout le monde peut être potentiellement concerné par une mise en cause et éventuellement une condamnation. Alors on peut parler de ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, mais globalement la question du financement de la vie politique se pose dans tous les partis politiques de la même manière, avec une limite de plafond. Et c'est un vrai débat d'ailleurs qu'il faudrait se poser hein, sur à la fois le financement, les plafonds que c'est vrai, les candidats n'ont pas le droit de dépasser un certain nombre de plafonds. Il y a la question du remboursement et puis il y a la question même de la capacité à emprunter. On sait que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup de partis politiques.
Absolument.
Emmanuel Macron, au début de son quinquennat d'ailleurs, avait parlé de la création d'une grande banque pour financer la vie politique.
François Bayrou.
François Bayrou, vous avez raison.
La banque de la démocratie.
La banque de la démocratie.
Et on l'a jamais vu le
jour. Et je pense que c'était une très bonne idée parce que ça permettait encore de mettre encore plus de distance parce que les banques maintenant sont très gênées à l'idée de financer des politiques, ça leur fout une peur bleue parce qu'ils se disent, oulala, s'il y a des problèmes avec la justice, on va avoir une très mauvaise réputation, quoi qu'il se passe. Et du coup, je trouve qu'il faut peut-être se servir, je sors un peu du débat, mais se servir de ce qui est en train de se passer dans l'actualité judiciaire concernant Nicolas Sarkozy pour se poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, on hérite d'un cadre légal qui, pour moi, est assez obsolète, mais avait été mis en place. Il ne faut pas retourner non plus, il faut se souvenir d'où on vient. Dire qu'il n'y avait pas du tout avant notamment la loi de financement de la vie politique qui avait été initiée par Lionel Jospin, et c'était une très bonne loi d'ailleurs. Avant, il n'y avait pas de, il y avait rien qui encadrait la vie et le financement de la vie politique. Et du coup, par exemple, vous aviez des groupes pétroliers qui soutenaient un voire plusieurs candidats, et ça posait la question aussi de l'indépendance, la redevabilité ensuite du politique qui était élu vis-à-vis de ses financeurs. Et du coup, voilà, je pense que ça vaut le coup, ça mériterait le coup, je trouve, de poser un vrai débat. Et en plus, je pense que c'est un des rares sujets qui fait consensus dans le diagnostic dans toute la vie politique, parce que tous les partis sont concernés de la même manière par ces mêmes questions.
Louis Osalter, de Marianne.
Sur Nicolas Sarkozy, alors,
C'est l'histoire du piège tendu par les politiques eux-mêmes, parce que Louis parlait d'immixtion de la justice. En réalité, ce sont des lois qui ont été votées par les politiques eux-mêmes. C'est-à-dire les lois de 88, 90, 95, elles suivent effectivement une période où, pour financer la politique, c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on faisait comme on voulait, tout était occulte, ça passait par des rétrocommissions, des boîtes privées, il n'y avait pas de montant, ça n'était pas contrôlé, c'était vraiment n'importe quoi. On parle d'une époque pas si ancienne que ça, mais à laquelle ces lois sont venues mettre un terme, et c'est plutôt heureux. Mais du coup, c'est en vertu de ces lois, en vertu des limites du plafonnement, que Nicolas Sarkozy a été condamné. Et on sent un réflexe de crainte, en fait, de la classe politique entre ceux qui soutiennent Sarkozy et ceux qui ne vont pas l'accabler après cette condamnation assez lourde. On sent un réflexe de crainte parce que entre les affaires Fillon en 2017, les mises en examen d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, de plusieurs responsables qui ont géré la crise sanitaire, ces condamnations qui sont inédites, c'est la première fois qu'il y a une condamnation judiciaire dans le cadre d'une affaire de financement illégal de campagne présidentielle, oui. C'est parfaitement inédit. On sent que la tension entre juges et politiques prend un nouveau tournant, mais il ne faut jamais oublier que les juges rendent leur jugement, leur décision, en appliquant les lois votées par les politiques. Alors évidemment, si les politiques se disaient « on va adoucir les lois qu'on a nous-mêmes votées pour s'auto-réglementer parce que c'était n'importe quoi », on n'imagine pas que ça se fasse du jour au lendemain, mais il ne faut pas oublier cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est évidemment la question du financement de la vie politique. Louis le disait que la question se posait pour tous les partis, c'est vrai, mais elle concerne certains plus que d'autres. Aujourd'hui, le Rassemblement National n'arrive à obtenir aucun prêt de banques françaises ou européennes, parce que les banques ne veulent pas compromettre leur réputation. Et pour les partis en général, et les banques françaises sont très frileuses à l'idée de prêter.
Parce que c'est le Rassemblement National ou parce qu'il y a eu notamment l'affaire de l'emprunt russe?
Parce qu'il y a eu des affaires, et pas que celle-là. Il y a aussi l'affaire Big Malion, pour laquelle qui a donné lieu à ce jugement. Il y a eu les comptes de l'UMP. Il y a eu plusieurs affaires.
Du RN, vous parliez justement qu'aucune banque ne veut prêter au RN. Donc je posais la question. Est-ce que c'est parce que c'est le Rassemblement National ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'affaire de l'emprunt russe?
C'est l'inverse. L'affaire de l'emprunt russe a découlé du fait que le Rassemblement National a dû aller jusqu'en Russie pour aller trouver de l'argent, ce qui évidemment n'est pas le meilleur dégage de confiance. Et parce que les banques ne veulent pas compromettre leur réputation en prêtant au Rassemblement National, mais même maintenant en prêtant à quasiment n'importe quel parti. Ce qu'elles consentent à faire, c'est uniquement prêter de l'argent à des candidats éventuels.
Maxime Biedot. Sur la condamnation en soi, c'est assez compliqué de réagir. Je trouve néanmoins que lorsqu'il s'agit des condamnations concernant Nicolas Sarkozy, c'est toujours très compliqué de réagir parce que on ne peut pas être sûr du bien fondé de ces accusations. Parce qu'on se rappelle qu'en été 2020, Le Point sortait un dossier sur la façon dont le PNF avait enquêté. Alors c'était dans l'affaire libyenne, mais la façon dont le PNF s'était acharné sur Nicolas Sarkozy, à savoir absolument qui était la taupe qui avait prévenu Nicolas Sarkozy, qui était sur l'écoute. Donc le PNF avait mené pendant plus d'un an une enquête inédite avec l'écoute des avocats, avec parfois la géolocalisation de certains avocats, ce qui a donné lieu, rappelez-vous, il y a une petite année à l'affaire des fadettes, c'est-à-dire que tous les avocats s'étaient indignés d'avoir été mis sur écoute pendant autant d'années, et surtout que cette enquête-là et ces écoutes n'ayant rien donné, le PNF n'a pas versé cette enquête en nullité au parti de Nicolas Sarkozy, ce qu'avait d'ailleurs reproché la défense de Nicolas Sarkozy lors du procès. Et puis surtout, l'avocat s'était indigné parce qu'il est totalement anormal que de telles écoutes se produisent en démocratie. C'est-à-dire que la relation entre le client et son avocat doit être absolument sacrée. Ça fait partie des secrets professionnels que l'on doit absolument conserver. Et que généralement, les jugements ou les procès de Nicolas Sarkozy indignent davantage sur ou en quelque sorte provoquent une certaine joie de la part de ses détracteurs, plus qu'au de véritables interrogations sur le PNF. C'est inquiétant, surtout que au sein même du PNF, à ce moment-là, il y avait eu des problèmes internes. On se rappelle du vice-procureur qui était à ce moment-là en place, qui avait écrit à la procureure de la Cour d'appel, qui avait dit qu'il y avait d'énormes tensions internes. Et Nicole Belloubet, en ayant ces informations, avait lancé une enquête. Et quand même, à l'intérieur, également à l'intérieur de cette enquête, on utilise quand même des termes on parle quand même de fonctionnement cloisonné du parquet national financier et d'un déficit de remontée d'informations. Donc quand on a toutes ces enquêtes et quand on a tous ces éléments, on ne peut pas un tout petit peu être circonspect quant au résultat du procès concernant Nicolas Sarkozy. C'est toujours délicat.
Alors justement, le mot acharnement n'est pas employé cette fois-ci dans le tweet de Nicolas Sarkozy, même s'il parle d'humiliation, vaine tentative d'humiliation. Nicolas Sarkozy, qui, vous l'avez évoqué, Maxime Biedot, est impliqué, en tout cas approché, concerné dans plusieurs affaires. Victor Chabert, est-ce qu'on peut faire le point justement avec vous sur toutes ces affaires ?
Alors, une condamnation en mars dernier pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Paul Bismuth, pseudonyme utilisé par Nicolas Sarkozy pour ouvrir une ligne téléphonique avec laquelle il échangeait avec son avocat. Il a interjeté appel. D'autres affaires sont toujours en cours. L'ancien président est mis en examen dans l'enquête sur le présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Son nom apparaît aussi dans une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier sur des conseils prodigués à une société russe d'assurance. Mais il n'est pas poursuivi. Dans la très médiatique affaire Karachi, il a été entendu comme simple témoin. Il y a aussi un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy a été mis hors de cause en 2013. Il a bénéficié de l'immunité présidentielle dans l'affaire des sondages de l'Elysée, des soupçons de commandes irrégulières à deux de ses conseillers, Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Immunité également dans l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais Tapie. Parfois, ce sont des affaires plus farfelues, comme le lien qui avait été fait entre lui et Air Cocaïne. 700 kilos de drogue retrouvés à bord d'un avion à Punta Cana. L'appareil était loué par une compagnie d'aviation d'affaires. Au cours de l'enquête, la magistrate chargée du dossier découvre que l'avion a été plusieurs fois affrété pour des voyages privés de Nicolas Sarkozy. Elle soupçonne alors un abus de biens sociaux parce qu'il n'a pas payé lui-même les trajets. Mais l'ancien chef de l'État a finalement été blanchi.
Voilà donc pour ce merci Victor Chabert pour ce résumé des affaires impliquant Nicolas Sarkozy. Évidemment, ça donne, j'allais dire, du grain à moudre pour les détracteurs de l'ancien président.
Évidemment, mais même sincèrement, je suis étonné que ce soit à gauche, à droite, que on s'amuse en quelque sorte à commenter les décisions de justice concernant Nicolas Sarkozy. Quand on a des révélations concernant un parquet national financier qui est changé, qui est chargé plutôt d'avoir des enquêtes concernant des comptes de campagne, concernant des politiques, concernant des grosses affaires, à partir du moment où il y a des soupçons comme celui-ci qui avait révélé comme ceux qui avaient révélé le point, ce n'est pas normal qu'on balaye ça d'un revers de la main, surtout après les résultats d'une enquête administrative qui révèle des dysfonctionnements. Et ça, dans une démocratie, une fois de plus qu'on s'habitue à ce que les secrets professionnels, que ce soit un coup avec les médecins, que ce soit un coup avec les avocats, que ce soit un coup ailleurs, ne finalement n'inquiète plus tellement de monde, ben à titre personnel, je trouve ça un peu stupéfiant.
Et là encore, d'ailleurs que ce soit qu'on soit dans un camp, celui des détracteurs ou celui des défenseurs de Nicolas Sarkozy, ce qui se passe, ben, c'est que Sarko reste le faiseur de droit de roi à droite.
Mais évidemment.
Ça. Alors, est-ce qu'il reste le feu?
Louis Dragnel.
Ce qu'on peut observer tous, c'est que tous les candidats à la primaire de la droite ont tous fait un petit mot très chaleureux, très gentil.
Mais je sens le maire.
Sans arrière penser. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une semaine, tous cherchaient à avoir le soutien de Nicolas Sarkozy. Je pense que à partir d'aujourd'hui, je pense que tout le monde ne va pas aller frapper à sa porte pour chercher son tampon. Donc voilà, ça c'est un peu.
Par Miroménil ou Rupert Gérin, parce que là, pour le coup, avec le bracelet électronique, on ne sait pas à quel endroit.
Attendez, pour l'instant, il n'a pas de bracelet électronique. Non,
non, il n'en portera
peut-être jamais.
Et vous avez raison de le.
Parce que là, attendez, c'est une petite précision, mais concrètement, il a fait appel. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau procès et il sera à nouveau présenté au début du procès comme présumé innocent.
Exactement.
Donc, c'est le système judiciaire français. Donc il peut encore tout se passer. Après, quand on voit les relations entre Nicolas Sarkozy et l'institution judiciaire, c'est assez malheureux, mais c'est vrai qu'il y a même des déclarations de magistrats, et je rejoins ce que disait Maxime Liédo tout à l'heure, qui sont sortis où ils avaient envie de le payer, clairement, où ils le disaient. Il n'y avait aucun.
Mais ceux qui jugeaient pas de. Voilà. Nicolas Sarkozy, c'est ceux qui l'avaient épinglé sur le mur des cons qui avait été.
Ceux qui avaient été.
Parmi
globalement, c'est la génération un peu d'avant.
Mais la relation
entre Nicolas Sarkozy et la magistrature, ça a commencé quand il était même quand il était ministre de l'Intérieur, quand il était président ensuite, et effectivement après ça s'est poursuivi après. Je note juste une chose, il y a quand même un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une concentration de moyens qui est exceptionnelle aujourd'hui, de moyens judiciaires contre Nicolas Sarkozy et donc maintenant contre toute la classe politique. Ça paraît un détail, ça paraît anecdotique, mais par exemple il y a des outils qui sont mis en place, qui sont habituellement utilisés par les services de renseignement pour traquer des terroristes. Par exemple, l'IMSI Catcher, alors ça parle à personne, parce que c'est du jargon, mais c'est une sorte de valise qui permet d'aspirer toutes les conversations téléphonique qu'il y a dans une pièce ou dans un rayon de 100 mètres autour de vous.
Je vais mettre ça chez ma belle-mère.
Et voilà. Mais alors ça coûte un peu cher quand même, parce que votre belle-mère, il faut lui offrir un cadeau à plus de 500 000 euros.
Ça vaut peut-être le coup pour savoir tout ce qu'on balance.
Et donc c'est ce type de moyen qui a été mis en place avec des systèmes de bornage où il détournait une antenne relais téléphonique pour simuler justement cette antenne, ce qui permettait d'aspirer les contenus. Si vous voulez, c'est du matériel qui est utilisé, par exemple, même par les militaires au Sahel, en Afghanistan. Enfin,
c'est une technologie française, d'ailleurs. Je m'écarte un peu du débat.
Israélienne, mais... à l'origine, d'accord. Et puis maintenant, tout le monde en fait. Et même, il y a le marché du low cost qui en vend maintenant pour votre belle-mère. Cher Pierre. Maintenant, à partir de 50-60 000 euros.
Ah oui.
Vous pouvez ça?
C'était mon anniversaire il y a quelques jours, j'aurais pu m'en offrir.
Réjouissez-vous, Pierre, parce qu'avec le passage à la 5G, les Ipsy Catcher, normalement, ne fonctionneront plus. Bref, ça, c'était pour la notice technique. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a des moyens énormes qu'on n'avait jamais vu par le passé, voilà, qui ont été utilisés pour Nicolas Sarkozy.
On n'a pas beaucoup entendu Isabelle Florenne sur le sujet Sarkozy.
Non. Ça vous étonne.
Point.
Non, mais...
On dira la même chose. Mais vous êtes dans quel camp, vous?
Ah, moi, je suis pas dans le camp. Je suis pas dans le camp ni des détracteurs, ni.
Vous êtes dans Nini, vous savez, ça rappelle un autre chapitre de.
Je crois de toute façon que quand on est soi-même dans le milieu politique, et puis je suis députée des Hauts-de-Seine, et j'ai pas envie de commenter une décision de justice. Mais quand même de dire.
C'est comme Louis Dragon.
Non, mais quand même de dire, pour répondre aussi aux propos qui ont été tenus par Louis Dragnel sur. La question de la vie politique et du financement de la vie politique, on a fait une loi quand même aussi en 2017. C'était la première loi à la commission des lois, confiance dans la vie politique. Et juste pour dire un regret, effectivement, on n'a pas pu avancer sur le financement de la vie des élus et des campagnes, oui. Qui sont la question de la banque de la démocratie que vous évoquiez. C'est une question importante qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est un regret. Et un regret aussi.
Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais.
Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on le remette dans le programme qui arrive. Et je pense que on y contribuera avec mon groupe politique pour remettre ces questions et ce sujet sur la table. Aussi pour dire que sur cette confiance dans la vie politique, on n'a pas avancé. Puisque finalement, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, elles sont très révélatrices que les élus restent les mal-aimés.
Il y a les journalistes au-dessus de vous, rassurez-vous.
Oui.
Voir mon avis, bon, selon
alors
les enquêtes.
Voilà, on est à peu près... Non mais, pour dire qu'on a du boulot sur le sujet et que ces affaires, malheureusement, sans prendre parti, contribuent pas à cette amélioration de l'image des politiques.
Isabelle Florenne, Maxime Yedo, Louis Osalter et Louis Dragnel sont avec nous à table. On reparle de Nicolas Sarkozy juste après cette nouvelle pause. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, 18h-20h.
Pierre de Villeneau.
On en parle.
Société Générale lance une nouvelle gamme de placements financiers innovants. On en parle avec Guillaume Desrien, directeur du projet Nouvelle Génération d'Épargne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en quoi cette offre est-elle nouvelle?
En fait, elle n'est pas basée sur des fonds purement maison. On est allé chercher des numéros 1 français et internationaux en gestion d'actifs.
D'accord.
Notre nouvelle gamme est donc compétitive. Elle est en plus 100% responsable.
Responsable, c'est-à-dire?
Chaque fonds bénéficie du label Investissement Socialement Responsable ou concentre ses investissements sur l'environnement. C'est important pour Société Générale et nos clients. Mm-hmm. On a donc souhaité que cette offre soit accessible au plus grand nombre.
Et en termes de performance?
Eh bien, ces dernières années, les investissements socialement responsables ont globalement présenté des évolutions comparables, voire supérieures à celles des fonds classiques. Mm-hmm. Et grâce à l'expertise de nos partenaires, nous voulons concilier responsabilité et compétitivité.
Merci Guillaume.
On en parle. Les investissements sur les marchés financiers présentent un risque de perte en capital. Prenez rendez-vous avec votre conseiller pour qu'il détermine la solution d'investissement adaptée à votre situation et à vos besoins. Samedi matin, vers 6h15, retrouvez l'entretien de Philippe Legrand
avec CroisiEurope. CroisiEurope, des bateaux à taille humaine au plus proche des beautés du monde depuis plus de 45 ans. Plus d'infos sur croisiEurope.com.
Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021.
Et vous, qu'est-ce qui vous rend Aldict?
La viande française chez Aldi.
Et pour les derniers jours terriblement Aldict, retrouvez notre barquette de 1 kg de viande hachée, pur bœuf 100% muscle, origine France, à seulement 7,79€. Et ça devrait vous rendre Aldict.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Étude Louisville 2021, catégorie distribution alimentaire, offre valable jusqu'à épuisement des stocks.
L'instant Darty.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez soi.
Et l'aspirateur, il va se passer tout seul?
Bah oui, justement.
Retrouvez l'opération bien-être chez Darty. Le robot iRobot Roomba i3558 est à 599€ au lieu de 699, soit 100€ d'économie. Commandez maintenant sur darty.com, c'est disponible dans une heure en magasin.
Offre valable jusqu'au 24 octobre, voire conditions en magasin sur darty.com.
On parle de la condamnation de Nicolas Sarkozy, mais aussi de toutes les conséquences politiques de cette condamnation avec nos débatteurs. Ce sont les débats d'Europe Soir. Restez avec nous, à tout de suite.
Alors, question 2. Vous êtes plutôt à Cigale, vous dépensez sans compter,
Ou B, fourmis, vous faites des économies sur tout?
Bah, ni l'un ni l'autre. Moi, ça fait 8 ans que je travaille et j'ai à peine économisé 1000 euros.
Grâce à l'offre objectif propriétaire de Nexity, il n'en faut pas beaucoup plus pour devenir propriétaire. Collectez 1000 euros auprès de vos proches avec la cagnotte immobilière. Nexity vous offre 1000 euros supplémentaires et les frais de notaire.
Offre valable en cas de signature d'un contrat de réservation entre le 6 septembre et le 31 octobre 2021 portant sur un bien immobilier neuf. Retrouvez les programmes éligibles et les conditions sur nexity.fr.
Chez Alinéa, nous savons combien notre canapé est essentiel à nos vies. Qu'il soit droit, d'angle, classique, moderne, confort ou design, il nous accueille tel que l'on vit. On y déjeune, on y sieste, on y travaille aussi et on y prend nos grandes décisions. Et oui, le canapé est au cœur de toutes nos vies. C'est pourquoi Alinéa vous offre jusqu'à moins 20% sur une large sélection de canapés, mais aussi jusqu'à moins 20% sur une sélection de tapis, luminaires et meubles de salon. Alinéa, meubles et déco. Offre valable jusqu'au 11 octobre, conditions en magasin et sur alinéa.com.
Vos yeux sont exceptionnels. Ils peuvent discerner un objet à plusieurs dizaines de kilomètres et reconnaître quelqu'un de suffisamment loin pour avoir le temps de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Ils peuvent percevoir des centaines de nuances de gris et aujourd'hui votre premier cheveu blanc. Mais voilà, vous, tout ce que vous voulez voir pour l'instant, c'est si c'est un 0 ou un O dans ce fichu code Wi-Fi. Alors si vous avez plus de 40 ans, votre opticien Atoll vous offre un diagnostic presbytie. Atoll, bien voir, bien être. Atoll. Ce test n'est pas un examen médical, voir conditions sur opticien-atoll.com.
Caisse d'épargne. 6 sur 10, c'est la part de Français qui accorde une place importante aux impacts environnementaux et sociétaux de leurs placements. 6 sur 10, pour qui un investissement doit rapporter plus qu'un simple rendement. C'est pourquoi la Caisse d'épargne s'engage à être encore plus utile en proposant des solutions d'investissement responsables en assurance vie et plan épargne retraite. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS, voire conditions en agence.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et on reparle de la condamnation et des conséquences de cette condamnation de Nicolas Sarkozy avec la députée MoDem des Hauts-de-Seine Isabelle Fleuren, avec Maxime Yedo, journaliste essayiste, avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec mon confrère de Marianne, Louis Osalter, qui n'a pas encore pris la parole sur ce sujet.
Sur Sarkozy, sur le fait que les politiques payaient quelque part les lois qu'ils avaient eux-mêmes votées. Sur le financement, alors effectivement, la Banque de la démocratie, en fait, c'est l'un des députés MoDem devant moi, donc je reviens sur ce sujet, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'était l'une des conditions de l'alliance de François Bayrou avec Emmanuel Macron, avec d'autres éléments institutionnels comme la proportionnelle, qui n'a pas vu le jour non plus. Et alors, ce n'est pas faute de la part du groupe MoDem d'avoir essayé de faire advenir cette promesse de la Banque démocrate de la démocratie pendant le quinquennat, mais ça n'est pas devenu, et je pense que ça pose un problème encore plus fondamental maintenant, parce que le clivage politique aujourd'hui est très sociologique. C'est-à-dire que si je résume et que je prends une grille d'analyse marxiste, vous avez La République En Marche, le parti des Bourges, et le Rassemblement National, le parti des Prolétaires. D'accord. Je résume, mais quand vous regardez l'analyse des votes, c'est ça. Hein, c'est les classes populaires votent Le Pen ou s'abstiennent, et la bourgeoisie a plus tendance à voter Macron, ou un petit peu à droite, un petit peu pour le Parti Socialiste, un peu les écolos. Mais globalement, c'est ça.
Stabilo Boss, les prolétaires, entre guillemets, ne votent pas LFI. Ils votent Rassemblement
National. Beaucoup plus, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. LFI n'est pas un vote très populaire. C'est plus un vote de fonctionnaires, de profs, de catégories intellectuelles supérieures. Je disais ça parce que ça pose le problème du financement. Emmanuel Macron, quand il a fait sa campagne en 2017, n'a eu aucun mal à lever des fonds, en partie parce qu'il s'adressait à un public de gens aisés, où il a fait des dîners de levée de fonds, il est allé à l'étranger voir des expatriés. Donc il n'a eu aucun problème dans le financement de sa campagne. Il n'y a pas eu de problème non plus pour contracter un emprunt auprès des banques, puisqu'il avait une surface financière personnelle qui était confortable, donc ce n'était pas risqué pour les banques de lui prêter de l'argent. En plus, il était sûr de faire plus de 5%, d'être remboursé. On ne prête qu'aux riches, et le Rassemblement National, non seulement n'est pas riche, mais les gens qui votent pour lui ne sont pas riches non plus. Donc, il y a une disproportion sociologique dans le clivage politique actuel. Ça a peut-être changé, ça n'a pas toujours été le cas, mais qui fait qu'aujourd'hui, un parti comme celui d'Emmanuel Macron n'a aucun problème de financement, alors qu'un parti comme le Rassemblement National, qui a un électorat très populaire, qui n'a pas non plus une très bonne gestion financière, au passage, il y a quelques problèmes de gestion financière interne, mais a des difficultés à se financer, y compris à cause de ça. Ils ne peuvent pas compter sur des dîners de levée de fonds, ils ne peuvent pas compter sur des emprunts bancaires. Et la Banque de la démocratie, qui devait répondre en partie à cette question, et y compris permettre l'émergence démocratique, pourquoi pas d'autres formations, d'autres partis qui n'auraient pas eu les moyens immédiats de le faire, mais je pense aussi au MoDem, hein, aurait dû répondre à cette question, et aujourd'hui cette question n'est pas résolue.
Je reviens à Nicolas Sarkozy lui-même, qui, je parle sous votre contrôle, Louis Dragnel, doit signer son bouquin demain à Neuilly-sur-Seine, dans la librairie,
des quatre librairies, je crois, la Martine
de l'avenue du Roule. Est-ce qu'il va y avoir foule? Oui, bien sûr, vous allez me répondre. Mais comment est-ce que va être comment va être perçue cette signature demain?
Ben alors, ça fait partie. Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est un des derniers de l'ancien monde. C'est-à-dire que il a des fans absolus. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours beaucoup de gens, notamment dans les Alpes-Maritimes, dans les Hauts-de-Seine. Il y a quelques départements comme ça très forts.
Donc c'est localisé. C'est localisé.
Absolument, dans des fédérations qui étaient très fortes et dans lesquelles il a aussi marqué les esprits. Et donc, je peux vous dire qu'il y aura foule avec plein de gens qui vont lui dire « Tenez bon, monsieur le Président, on vous soutient ». Et c'est des gens, quoi qu'il se passe, de toute façon, resteront inconditionnels à Nicolas Sarkozy. Ce sont un peu les militants historiques de l'UMP. Certains étaient militants avant du RPR. Et ont cette espèce de passion totale pour Nicolas Sarkozy.
Est-ce qu'il va y avoir, alors je ne sais pas, une protection renforcée suite à ces condamnations, aux conséquences qu'il y a eu, effectivement, à quelques, comment dirais-je, quelques commentaires désagréables envers l'ancien président. Est-ce qu'il y a des personnes qui risqueraient de venir demain matin, justement, pour voir à Neuilly, oui. Pourquoi à Neuilly? Bah, attendez,
ce serait symbolique.
Mais
attendez,
vous
les rues sont ouvertes à Neuilly, c'est pas une voie privée.
Absolument.
Hein. Non,
alors,
il y en a,
hein, mais pour vous répondre très précisément, Chapierre. Alors, déjà, par principe, tout ancien président de la République a un dispositif de sécurité rapproché qui est géré par le service de la protection. Et donc, ce sont des policiers, une équipe de policiers qui encadre jour et nuit le président de la République. Ça fonctionne en brigade, donc il tourne. Et c'est plusieurs équipes. Nicolas Sarkozy, il me semble que ce sont deux équipes de 7 personnes.
Donc 14 personnes.
Parce qu'il y a des officiers de sécurité, il y a des voitures aussi de précurseurs, il y a une voiture suiveuse. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de sa sécurité personnelle. Et en plus de ça, comme il s'agit d'une personnalité exposée et donc menacée, eh bien les services de renseignement, dès que Nicolas Sarkozy se déplace pour ce type d'événement, il prévient évidemment le préfet du département qu'il sera présent à tel endroit, la police sera présente, et en plus de ça, les services de renseignement, s'ils anticipent n'importe quelle menace concernant l'événement, le signalent immédiatement aux policiers chargés de sa protection, et s'il le faut, réadaptent le dispositif de sécurité autour du président. Donc de toute façon, Nicolas Sarkozy, je pense, est entre deux bonnes mains.
Ça vous amène une réaction, Maxime Hiedon?
Non, du tout, mais ça rebat un peu le si, toujours vos réactions extraordinaires, Louis, m'amènent des réflexions, mais ce que je voulais dire, c'est que ça, en effet, ça rebat un peu les cartes de Nicolas Sarkozy dans le jeu politique. On a vu cette semaine la petite tournée médiatique qu'il a fait pour son nouveau livre, notamment ici sur Europe 1 avec Laurent Ferrari, et on a bien vu à quel point il est encore un tout petit peu nécessaire aujourd'hui dans son camp, c'est-à-dire que les quelques mots qu'il a eu sur l'actualité, sur la politique, sur l'état de son camp, ont été repris sur Zemmour. C'est le seul à droite, c'est la première fois dans le camp, notamment des Républicains, qu'on entend une ligne aussi claire, avec en quelque sorte une ligne rouge à ne pas franchir. Alors qu'aujourd'hui, si on voit les quelques ténors du Républicain, c'est quelque chose que personne ne comprend. Christian Jacob ne veut pas qu'il participe à la primaire. On a un Gérard Larcher qui dit qu'il ne correspond pas aux valeurs, mais le même Christian Jacob, tout en excluant l'idée qu'il participe à la primaire, dit deux jours après qu'il n'est pas d'extrême droite, qui n'est pas raciste. Dans ce cas-là, pourquoi il ne participe pas à la primaire? On a des Laurent Wauquiez qui disent le soutenir et un Éric Ciotti qui dit envisage de voter pour lui si le polémiste arrive face à Emmanuel Macron. Donc on a un camp totalement divisé, et c'est la première fois qu'une voix à droite, c'est celle de Nicolas Sarkozy, qui apporte une ligne claire sur Éric Zemmour, sur Emmanuel Macron, sur le vide intersidéral des idées. Donc vous voyez, c'est quand même encore...
Dans mon idée de faiseur de droit, est-ce qu'on l'écoute derrière? Justement. Est-ce que la ligne rouge est tracée? Est-ce que du coup elle va être respectée?
Alors, c'est quelque chose d'assez ambigu, parce qu'il y a ce qui se passe officiellement et puis il y a ce qui se passe en coulisses. Facialement, Nicolas Sarkozy est retiré de la vie politique, donc en théorie, on pourrait penser qu'il se désintéresse totalement de la vie de son ancien parti. Sauf que, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le contraire qui se passe.
C'est le contraire.
Et ce qui s'est passé, c'est que pendant beaucoup d'années, de nombreux mois, Nicolas Sarkozy entretenait le mystère sur son possible retour. Et du coup, ça a privé quand même toute une génération politique à droite de monter, d'essayer, d'espérer quelque chose. Tout le monde était un peu suspendu à la décision éventuelle, possible, putative de Nicolas Sarkozy de revenir. Du coup, en fait, ça fait très peu de temps qu'on sait que maintenant c'est terminé, Nicolas Sarkozy ne se représentera pas à une élection présidentielle. Et donc forcément, voilà, si vous voulez, on a une équipe 2, une deuxième ligne derrière qui... ça fait très peu de temps qu'ils se disent enfin ça y est, mon tour peut venir. Et donc voilà, donc Nicolas Sarkozy a créé, malgré lui ou de son, je pense que c'est aussi de son volontaire, une incapacité pour la droite à essayer de se renouveler, de penser à l'après Nicolas Sarkozy. Donc voilà, on est dans c'est cette situation là.
Oui.
Et donc la droite est je pense soit en crise d'adolescence, soit en phase de décomposition totale, on verra tout ça, je pense.
L'après Sarkozy est toujours un trou noir pour la droite, ça c'est vrai. Même s'il y a une hype Fillon liée au résultat de la primaire, mais qui
il y a même eu des rumeurs comme quoi Nicolas Sarkozy, s'il avait été blanchi dans cette affaire Big Ballion, ce serait peut-être représenté.
Ça c'est un marronnier qu'on a fait des fois, mais qui était toujours présent dans tous les esprits à droite. Ça c'est évident.
On parlait de l'équipe 2 qu'évoquait Louis, mais cette équipe 2, je pense qu'il y avait aussi.
C'était l'ombre portée qui tétanisait un peu la droite et empêchait d'autres personnalités d'émerger. En revanche, faiseur de roi, moi je pense pas, parce que je pense que les gens ne fonctionnent plus par consigne de vote, même avec des personnalités aussi emblématiques et statutaires qu'un ancien président de la République. Ce sont des gens qui achètent ses livres, qui peuvent aller les voir en dédicace. Ça ressemble plus à un fan club qu'à un club de votants. Je pense pas que les consignes marchent.
Vous pensez qu'avec Éric Zemmour c'est différent?
Ça on le verra. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à un fan club, mais on verra comment ça se transforme. Franchement, c'est très intéressant parce que l'émergence de ce genre de personnalité médiatique va nous permettre peut-être d'apporter des réponses à ces questions. Mais les consignes de vote ne fonctionnent pas tellement. Je pense que Sarkozy n'est pas un faiseur de roi, mais qu'en revanche, il a un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'on voit bien le jeu ambigu qu'il joue avec Emmanuel Macron. La rumeur qui court à droite depuis longtemps, ce serait un pacte d'alliance de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron qui lui apporterait des troupes et un soutien public
encore
en vue d'une réélection. Ça court, mais après, compte tenu en plus de ce qui s'est
Isabelle
passé
Ferrand,
et de sa condamnation,
il a vécu ce que c'était l'enfer d'avoir un président de la République en exercice qui vous déteste, à savoir quand il lui-même, Nicolas Sarkozy, était ancien président face à François Hollande, qui quand même globalement lui a à peu près tout fait pendant son quinquennat, et du coup il a acquis une certitude, c'est qu'il faut bien s'entendre globalement avec tout futur président de la République, quel qu'il soit. Donc il a tout intérêt, parce que si vous voulez, par rapport à on parlait de son calendrier, son actualité judiciaire, il en peut plus, si vous voulez, de tout ça. Donc maintenant, ce qu'il souhaite, c'est que surtout Emmanuel Macron ne lui veuille pas de mal, et que si c'est un candidat de la droite qui gagne, bien la situation soit la même, c'est-à-dire ne pas avoir d'opposition du président en exercice.
Isabelle.
Non, moi juste une réflexion. Force est de constater à droite quand même depuis son départ en 2012. On assiste quand même au résultat actuel à une lutte et une guerre fratricide. Globalement, je veux dire, il avait quand même, en qualité de président de la République, mais avant, réussi à faire une certaine union derrière lui et à imprimer quelque chose. C'est clair que qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'était pas mon cas et c'était pas le cas de la famille politique à laquelle j'appartiens, qui a été même virulente face à lui, on peut le dire. Mais force est de constater que depuis 2012, quand je vous entends, c'est vrai que et là, c'est la bérésina quand même, ce qu'on assiste à une destruction. Je crains là. Qui va s'accélérer avec 2 mois pour arriver à un congrès le 4 décembre. Je constate, pour en discuter tous les jours avec des collègues, puisqu'on parle à l'Assemblée nationale et qu'au centre, on parle avec tout le monde, et c'est notre chance, que mes collègues députés LR, pour une grande majorité, savent vraiment plus quoi faire. Ils sont dans une situation quand même extrêmement difficile dans les semaines qui viennent. Et je m'en réjouis pas, parce que c'est pas facile d'appartenir à une famille politique qui va mal. C'est le cas. Je vois pas comment dans les semaines qui viennent, alors effectivement, s'accrocher à Nicolas Sarkozy pour des fan clubs, pour des militants, je peux comprendre, et c'est le cas dans un certain nombre de départements, parce que bon, il représente quand même cette
mais pour des parlementaires, vous ne comprenez pas.
À côté parlementaire, je pense qu'il va se passer des choses quand même dans les semaines qui viennent.
Juste d'apporter une toute petite nuance à ce que vous dites, c'est que là on débat, on discute comme si l'élection avait lieu dans 3 semaines. L'élection a lieu dans 6 mois et demi. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Et on a vu,
je dis pas le contraire,
dans l'histoire de la vie politique, il n'est pas impossible, j'en sais rien. Peut-être que ça se passera pas.
Je ne fais pas de prévision. Je dis simplement,
un candidat derrière lequel,
excusez-moi, je ne suis pas la seule à penser que ce qui se passe là à droite et la prévision et toutes ces remarques, vous lisez, vous êtes comme moi, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez toutes ces remarques, toutes ces ambivalences, toutes ces réactions, minute après minute, heure après heure, par rapport à leur primaire ou non primaire ou congrès. Oui. Sont alors, quand même destructrices.
Justement, vous avez effleuré le sujet, ça tombe bien, on va parler de la droite juste après le journal de 19h. On va également parler d'Edouard Philippe. À quoi joue-t-il ? Il se dit loyal envers le président, mais par voie de presse, il critique l'endettement du pays. C'est étrange. Sans oublier le grand Messi, le premier but a été marqué avec le PSG. Ça pourrait calmer tous ceux qui ont critiqué son salaire. A tout de suite pour le journal de 19h. Et à 19h15, le débat reprend. A tout de suite.